Ça, ça a pris comme 4 heures là, pour un rendez-vous?
C'est la troisième fois que je me présente.
Les rendez-vous vont juste au mois de juillet, fait que c'est super compliqué.
Tout le monde a une cible électorale dans le dos d'une certaine façon. Mais...
Bonsoir. Ça fait déjà quelques semaines que la majorité des mesures sanitaires à la frontière ont été assouplies. C'est désormais beaucoup plus facile de s'organiser pour voyager puisqu'on n'a plus besoin de passer un test de dépistage avant de rentrer au Canada si on est doublement vacciné. Vous êtes donc nombreux à planifier un séjour à l'étranger, que ce soit pour vous dépayser ou pour retrouver des membres de votre famille que vous n'avez peut-être pas vus depuis le début de la pandémie. Mais vous êtes tellement nombreux à y songer, à le planifier, que les bureaux de passeport sont débordés. Fanny Lachance-Paquette suit ce dossier pour nous. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Noémie.
Donc, si on doit renouveler son passeport, il faut s'armer de patience. Il y a énormément d'attentes, que ce soit au bureau en personne ou par la poste.
Eh oui, puis tu l'as dit, Noémie, les gens n'ont pas pu voyager au cours des dernières années, ou en tout cas, c'était très complexe. Là, maintenant que c'est beaucoup plus simple avec les frontières, il y a bien des gens qui en profitent, qui ont envie de partir. On le sent partout, cet engouement-là. On le sent dans les agences de voyage. On le voit aussi avec le prix des billets d'avion, le prix des forfaits. On sent que les gens ont envie de retourner voyager. Et il y a aussi le fait que, bien, pendant 2 ans, on n'a pas trop vérifié sur notre passeport quelle était la date d'échéance parce qu'on n'en avait pas besoin. Alors là, on se retrouve avec bien des gens dont le passeport était échu au cours des 2 dernières années et qui en ont besoin maintenant là, pour pouvoir repartir dans les prochaines semaines. Alors, ça fait bien des gens qui font des demandes auprès de Service Canada. Service Canada nous dit que pour l'instant, ça va plutôt bien, qu'on arrive dans la majorité des cas à répondre en 25 jours aux demandes par la poste, 5 jours pour les gens qui viennent se présenter dans les bureaux. Mais la réalité, bien, elle est tout autre, Noémie, parce que moi, je me suis rendue au complexe Guy Favreau, ici à Montréal, et ce que j'ai vu, ce sont de très longues files d'attente, des gens qui avaient envoyé leurs documents il y a plus de 6 semaines, qui n'avaient toujours pas eu de nouvelles, qui ont fait la file pendant des heures et des heures, qui sont venus plusieurs journées même aussi. Alors, il y a vraiment un problème en ce moment si vous voulez avoir votre passeport. Je vous laisse jeter un coup d'œil à ce dont ça avait l'air hier.
Ça, ce sont les files d'attente lundi matin au complexe Guy Favreau à Montréal, où des centaines de personnes attendaient pour renouveler leur passeport ou même pour obtenir un rendez-vous pour renouveler leurs documents.
Ils m'ont dit qu'il y avait 2-3 heures d'attente. J'ai essayé de prendre un rendez-vous, mais les rendez-vous vont juste au mois de juillet. Fait que c'est super compliqué.
C'est actually my 5th time doing it, but it's okay. 5th time lucky, I got it submitted today.
Non, j'ai réussi à avoir un appointement, mais je suis arrivée à 6h15 ce matin.
Et vous venez juste d'avoir votre rendez-vous?
Je viens d'avoir mon rendez-vous, ça fait 2 minutes, c'est pour le 2 mai.
Et ça, ça a pris comme 4 heures, là, pour un rendez-vous?
C'est la troisième fois que je me présente pour avoir... C'est la première fois que j'ai un rendez-vous en 3 fois.
C'était pour mon bébé. On a fait l'application, ça fait comme un mois et demi, mais... Avec les choses, maintenant, ça marche pas vraiment.
Avec les délais, vous aviez rien reçu.
C'est ça, oui. Oui, c'est quand même 2 jours que j'ai attendu dans le bureau.
Ça fait 2 jours?
Oui. J'ai été ici le vendredi, puis aujourd'hui.
En fait, il faut que je l'aie parce que ça fait depuis le 16 avril que je serais censé l'avoir, là.
OK. Fait que vous venez vérifier, vous en êtes où?
Oui, exact. Ben je viens le chercher parce que je pars lundi prochain.
Service Canada explique ses délais par le grand nombre de demandes. Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, Service Canada a livré 363 000 passeports. Pour la même période l'année suivante, ce sont 1 273 000 passeports qui ont été livrés. Et on voit le même phénomène pour le centre d'appel. Avant la pandémie, il recevait environ 5 000 appels par jour. Et maintenant, ce sont plus de 200 000 appels qui sont faits quotidiennement. Et si c'est la folie pour obtenir son passeport, c'est aussi la folie dans les agences de voyage.
C'est complètement débordé. Alors, on demande aux gens, en fait, de prendre rendez-vous avec des conseillers parce que si les gens se pointent sur place, les conseillers sont déjà occupés avec des clients. Et ça, ça fait quelques semaines déjà là, que la reprise s'est faite. Et à l'instar de d'autres industries, nous aussi, on souffre un peu de la pénurie de main-d'œuvre. On est à la recherche de conseillers en voyage.
Ça a l'air de quoi, les délais, justement, entre le moment où on veut prendre un rendez-vous puis le moment où on l'a?
Environ 2 à 3 semaines en ce moment, je pense, aux dernières nouvelles. Ça peut être long comme ça, ça dépend des régions aussi.
Puis pensez-vous que le fait que ce soit si long, si complexe, avoir son passeport, ça va peut-être aussi favoriser les destinations au Québec?
Peut-être, mais par contre, là, ce qu'on va dire aux gens, c'est prenez le temps dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas de plan de voyage dans les prochains 4-5 mois, prenez quand même le temps d'aller voir dans votre tiroir si votre passeport est à jour. Moi-même, le mien est à faire, donc dans 1 an, là, je vais commencer déjà mes démarches dès aujourd'hui pour m'assurer justement d'avoir un passeport qui est valide lorsque je vais acheter mon prochain voyage.
Puis Fanny, les passeports, ce ne sont pas les seules activités de Service Canada qui connaissent des retards en ce moment.
Non, la semaine dernière, on se parlait des travailleurs étrangers temporaires. Pour eux aussi, ça a été difficile au cours des derniers mois. Ça a pris plusieurs semaines supplémentaires pour les producteurs agricoles pour avoir les autorisations pour les faire venir. Ce que nous disaient les producteurs, c'est que c'était un problème informatique qui faisait en sorte qu'il y avait eu beaucoup d'attentes chez Service Canada. Mais ma collègue Anaïs Elboujaini va vous en parler un peu plus tard. Il y a aussi des problèmes pour les prestataires de l'assurance-emploi. Il y en a qui attendent encore ou qui ont attendu jusqu'à 6 mois pour obtenir leur chèque. Alors franchement, il se passe quelque chose en ce moment avec Service Canada. C'est vraiment difficile pour les usagers.
Merci beaucoup, Fanny.
Merci.
Les députés étaient de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui après une courte pause à l'occasion du congé pascal. Les 6 prochaines semaines de travaux parlementaires seront chargées et cruciales parce qu'après, ce seront les vacances estivales et ensuite le déclenchement de la campagne électorale. On en discute avec notre journaliste Simon Bourassa à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Alors aujourd'hui, le Parti québécois a accusé le gouvernement Legault d'avoir abandonné la réforme du mode de scrutin pour favoriser sa réélection en octobre.
Oui, on sent un peu de panique là, du côté du Parti québécois. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, qui est sorti aujourd'hui, se fie, lui, à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le site Québec 125, qui est un agrégateur de sondages et de tendances dans les intentions de vote. Et on peut voir qu'avec, quoi, 40 % du vote, s'il y avait une élection, quoi, cette semaine, la CAQ récolterait pas moins de 100 députés. C'est énorme. Dites-vous que ça prend 63 députés pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, le PQ, lui, se ramasserait avec un seul député. Et tout ça, bien, ce serait à cause du mode de scrutin, qui n'est pas proportionnel. Donc, notre mode de scrutin est uninominal à un tour où il manque de représentativité, notamment dans les régions. C'est ce que dit Pascal Bérubé. Le gouvernement s'était pourtant engagé, avec, entre autres avec le projet de loi 39, à réformer le mode de scrutin. On avait dit qu'on allait faire aussi une grande consultation publique à travers le Québec pour savoir, tenter le pouls, hein, savoir ce que les Québécois pensaient de cette réforme du mode de scrutin. La consultation publique n'a pas pu avoir lieu, pandémie oblige. Et donc, ce que Pascal Bérubé dit, c'est que la CAQ a l'intention de réduire le position à néant. On tomberait dans un déficit démocratique avec les résultats projetés d'une élection générale. Je laisse entendre Pascal Bérubé là-dessus, suivi de la réponse du premier ministre.
Ils ont renié un engagement électoral, puis ils sont morts de rire de ça. Puis ils regardent là, le Québec comme un jeu de risque, vous savez, le jeu de société, puis ils veulent tous les sièges avec une agressivité que vous n'avez pas idée d'eux. Parce qu'on s'en rend compte dans les comtés. Alors, ils ont ciblé tout le monde. Tout le monde a une cible électorale dans le dos d'une certaine façon, y compris moi.
Bien, on se rend compte que c'est vraiment pas la priorité des Québécois. Il n'y a personne qui se bouscule dans les autobus au Québec pour changer de mode de scrutin.
Et par ailleurs, Simon, c'est une journée importante aujourd'hui pour la nouvelle députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, qui a été assermentée aujourd'hui.
Oui, donc assermentation qui a lieu dans le salon de la présidence. Normalement, ça a lieu au Salon Rouge, l'ancienne salle du Sénat. Mais là, bon, c'est en rénovation, donc on a dû faire ça ailleurs. C'est un peu plus restreint comme endroit. Donc, le premier ministre qui a déjà confié un mandat à Shirley Dorismond, qui sera d'aller sur le terrain, discuter avec les acteurs du milieu de la santé, notamment les groupes syndicaux, pour aider Christian Dubé, le ministre de la Santé, dans sa promesse de donner accès à un professionnel de la santé à chaque Québécois dans un délai raisonnable. C'est un mandat qui, bon, pour l'instant, demeure abstrait. Mme Dorismond qui n'a pas nécessairement voulu répondre aussi à savoir si elle allait devoir remettre un rapport là-dessus au premier ministre. Mais bref, on recule dans le temps un peu. Plus tôt ce matin, elle était très contente d'être assermentée. On l'écoute.
Je pense énormément aux citoyens et aux citoyennes de Marie-Victorin qui m'ont accordé leur confiance pour défendre leurs intérêts. Il n'y a pas une journée que je ne pense pas à vous. Merci. Merci sincèrement. Et sachez que je ne prends rien pour acquis. Je serai toujours accessible, toujours à l'écoute, et je vais travailler sans relâche pour vous aider.
Merci, Simon.
Bonne soirée.
On va poursuivre la discussion avec nos invités. D'abord, Victor Henriquez, expert en relations publiques et en gestion de crise. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Noémie.
Et en visioconférence, Guillaume Bourgault-Côté, les chefs du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonsoir, Guillaume.
Bonsoir à vous.
Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, on est à 6 semaines des vacances estivales pour ces travaux parlementaires. Au retour, ça va débouler très rapidement. Ça sera le déclenchement de la campagne électorale et l'élection. Et là, les chiffres pour la CAQ, Victor, sont quand même hallucinants à quelques mois des élections. Rien ne semble pouvoir l'atteindre ou Bien, tout peut arriver.
Ben, c'est sûr que tout peut arriver en politique. Hein. 6 mois, c'est encore très long, mais il faut le dire, à ce moment-ci, si on avait des élections demain matin et qu'on avait un petit pari à faire, on parierait sur un gouvernement majoritaire caquiste. Maintenant, pour la CAQ, il y a toujours cette peur de monter trop vite, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus que redescendre. Ouais. Il y a une division dans les partis d'opposition à ce moment-ci qui fait que du côté de la Coalition Avenir Québec, on est pressé de faire quoi? De remplir ses promesses. Et les prochaines semaines, les 6 semaines serviront à ça, adopter des projets de loi et s'assurer qu'on arrive avec un bilan, malgré la COVID, ou est-ce qu'on puisse dire, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait.
Bon, et 6 semaines, ça va passer extrêmement vite, Guillaume, parce qu'en plus, sur ces 6 semaines, il y en a 2 où on étudie les crédits, n'est-ce pas?
Oui, les crédits, ça, c'est toujours très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la politique, moins pour le grand public, mais c'est quand même un exercice important et qui prend beaucoup de temps. Sauf que ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, il reste 4 semaines de travaux. Et là, quand vous regardez la liste des projets de loi qui sont en suspens, il y en a beaucoup. Simon parlait d'un projet qui ne sera pas là, celui sur la réforme du mode de scrutin, mais il y en a d'autres qui sont là très importants. Puis j'en ai ciblé 3-4 qui me semblent peut-être un peu plus cruciaux que les autres, mais notamment en santé. Il y a une seule commission parlementaire qui a 3 gros projets de loi, notamment la fin de l'état d'urgence sanitaire, aussi le projet de loi 11 qui, lui, concerne l'accès aux médecins de famille, davantage de disponibilité pour les médecins de famille, et un autre projet de loi sur les données. Alors, il y a ça. Et en justice, par exemple, vous avez tout cet énorme projet de loi sur de réforme du droit de la famille qu'on n'a pas commencé à étudier encore, que c'est très complexe, c'est très important aussi. Mmh. Mais il y en a un peu partout dans l'appareil gouvernemental comme ça, des projets qui sont en suspens. Et là, Victor le disait, mais le gouvernement va vouloir mettre le maximum de pression pour bonifier autant que possible son bilan législatif. Mmh. Avant d'arriver donc en campagne électorale.
Parce que toute promesse non tenue est une faille que les partis d'opposition tenteront d'exploiter. C'est qui l'adversaire le plus coriace à l'approche de cette campagne électorale? Il semble y avoir ce choc de personnalité avec Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. C'est plus qu'un choc de personnalité, c'est un sur l'échiquier, là. Québec solidaire peut vraiment menacer la CAQ ou non?
Non, mais c'est 2 opposés, puis c'est 2 partis qui, à ce moment-ci, ont un peu ce rôle de nouveau parti. On l'a entendu aujourd'hui à la période de questions, Gabriel Nadeau-Dubois qui a traité François Legault de politicien rétrograde, dans le fond, et François Legault qui a traité Gabriel Nadeau-Dubois de rêveur montréalais. Alors là, on va commencer à s'attaquer. Ce sont 2 très bons tribuns, 2 bons debaters. Pour moi, c'est le duel de la prochaine élection parce que Québec solidaire a un potentiel de développement extrêmement important à cause de la faiblesse du Parti québécois, à cause d'un espace politique à gauche aussi. On voit beaucoup de partis à droite. Dominique Anglade essaye d'aller vers la gauche, mais il y a cet espace aussi à gauche où un Québec plus juste, un Québec plus vert, plus d'environnement. On a vu aujourd'hui les attaques sur le troisième lien à Québec. Donc, Québec solidaire a un potentiel, veut être plus présent dans certaines régions. Donc, peut-être plus dur pour eux d'aspirer au pouvoir à ce moment-ci. Mais peut-être Québec solidaire peut aspirer à l'opposition officielle. Et pour eux, ce serait déjà extraordinaire. Rappelons-le, c'était un parti qui avait 3-4 députés il n'y a pas si longtemps que ça.
Et qui plafonne à 15 % dans les sondages, qui n'arrive pas vraiment à dépasser ce seuil-là. Guillaume, t'as évoqué l'énorme menu costaud législatif qui attend le gouvernement. Est-ce que, dans un contexte préélectoral, il peut vraiment compter sur la collaboration de l'opposition pour faire avancer son menu ou ils vont faire de l'obstruction pour lui mettre des bâtons dans les roues?
Bien, sans faire de l'obstruction, c'est quand même le rôle des partis d'opposition de prendre le temps d'étudier les projets de loi, de les bonifier, de les questionner, d'éprouver un peu la logique du gouvernement. Et la question est très bonne, à savoir jusqu'où ils auront envie de collaborer avec le gouvernement parce que le gouvernement a besoin de cette collaboration pour passer le plus de projets de loi possible. J'ai vraiment hâte de voir dans le concret qu'est-ce que ça donnera. Mais il y a toujours, et c'est la même chose en fait à chaque fin de mandat, le gouvernement a toujours aussi une part de responsabilité dans le fait que les projets de loi se sont accumulés et qu'on les a pas nécessairement appelés ou mis à l'étude devant les commissions parlementaires. Donc ça fait en sorte que là on essaie de tout compresser, mais les partis d'opposition ont plus ou moins d'intérêt, je vous dirais, à eux jouer le jeu du gouvernement. Puis il y a des questions très, très bonnes qui se posent dans à peu près tous les projets de loi qui sont déposés.
Bien oui. Mais puis après ça, le gouvernement aura peut-être beau jeu de dire bien, j'ai pas rempli mes promesses parce que l'opposition m'en a empêché. En tout cas, c'était les arguments de Justin Trudeau pas plus tard qu'à l'automne dernier. Pour des partis comme le PQ et le PLQ, donc Parti québécois, Parti libéral du Québec, dont on passe notre temps à annoncer le déclin, comment est-ce qu'ils renversent la vapeur? Comment est-ce qu'ils changent l'histoire qu'on raconte à leur sujet?
Ils doivent absolument définir leur ADN. Eux autres doivent trouver une façon de dire aux Québécois pourquoi voter pour eux. C'est la grande difficulté du Parti libéral du Québec et du Parti québécois à ce moment-ci. Puis on voit du côté du libéraux qu'il commence à y avoir même de la division chez les anglophones. Il faut absolument que Mme Anglade ramène ses troupes. Même chose pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Sinon, malheureusement, je ne vois pas comment ils pourront monter dans les sondages. Et c'est là où des partis à 15 % comme Québec solidaire et le Parti conservateur peuvent faire des gains importants, même si je ne pense pas qu'ils puissent aspirer au pouvoir.
Effectivement. Alors, merci à vous deux pour cette discussion passionnante. Victor Henriquez, Guillaume Bourgault-Côté. On refait ça bientôt, j'espère.
Avec plaisir.
Les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont manifesté dans les rues de Montréal. Plusieurs ministères et organismes gouvernementaux sont affectés aujourd'hui et demain par une grève des quelques 26 000 fonctionnaires, principalement des employés de bureaux et des techniciens. Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2020.
Les fins de mois sont de plus en plus comme difficiles. Là. S'il y a des pépins qui arrivent, là, moi, je suis plus capable de m'en mettre comme de côté. Là.
Mais c'est sûr qu'on a des bonnes conditions de travail. Là. Moi, je suis franche, c'est pas pour ça que je manifeste. Mais vraiment, concernant le salaire, ce serait temps que le public rejoigne le privé. Là.
Si le gouvernement fait rien, je vais prendre son expertise puis je vais retourner au privé. Là, parce que de toute façon, il va me payer pour faire la même job pour le privé.
On n'est pas juste des agents de l'État. On est aussi des citoyens qui travaillent pour d'autres citoyens. Les gens, ils ont des remontrances contre le gouvernement, puis c'est nous qui devons les subir, en plus de leur offrir un service de qualité avec le peu de moyens qu'on a.
On vous raconte hier que dans certaines régions, il faut parfois attendre dans l'ambulance avant de pouvoir entrer à l'urgence. Mais une fois à l'intérieur de l'urgence, on n'est pas au bout de nos peines. Dans certains hôpitaux, le patient moyen passera plus de 32 heures sur une civière avant d'avoir accès à un vrai lit dans une vraie chambre, selon des données du ministère de la Santé, d'abord rapportées par Le Devoir. J'en discute avec Judy Morris, elle est présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Bonsoir, Dr. Morris.
Bonsoir.
Merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, le ministère de la Santé avait dit on va réduire à 12h30 le temps passé sur une civière cette année. Mm-hmm. Le temps moyen au Québec, c'est 16h45 sur une civière. Il y a un hôpital, celui du Suroy à Valleyfield, où un patient passe en moyenne 32h30 sur une civière. Alors, comment ça se fait? Puis ça augmente d'année en année, ce temps-là. Pourquoi est-ce qu'on augmente au lieu que ça diminue?
Cette tendance-là avait commencé même avant la pandémie. Et cette tendance-là est associée à une diminution des visites totales dans les urgences. C'est ce qui frappe encore plus quand on regarde les chiffres.
Il y a moins de patients, mais ils passent plus de temps sur une civière.
Oui, oui. Bien, c'est le reflet du réseau qui n'est pas capable de suffire à la demande. On en a parlé, on avait déjà des pénuries de personnel. Ça a été empiré avec l'arrivée de la COVID les deux dernières années. Puis quand on a moins de personnel dans nos hôpitaux, on est moins capable d'ouvrir de lits. Donc, notre capacité hospitalière, elle est réduite. Puis les patients, quand ils ont besoin d'un lit d'hôpital pour être admis, bien, s'il n'y en a pas dans l'hôpital, ils attendent à l'urgence. Puis c'est ce qui fait exploser un peu les durées de séjour aux urgences.
Puis ça, tu sais, les chiffres qu'on mentionne, ce sont des moyennes. Il y a certains patients qui passent 48 heures et plus sur une civière. Donc, quand on se met la peau de ce patient-là, qui est dans le corridor, sur une civière à l'urgence pendant 24, 30, 35 heures, qu'est-ce qu'il vit, ce patient-là?
Bien, un, c'est de l'attente. Ils ne sont pas dirigés au bon endroit, dans leur bonne unité de soins qui leur est désignée, hein, et qui serait idéale pour eux. C'est un milieu, l'urgence, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de lumière, où des fois, les débordements, c'est dans un corridor. Donc, c'est loin d'être des conditions optimales pour des patients. Puis vous mentionnez 48 heures. On a vu des 40, 60, 120 heures tout récemment dans les hôpitaux de la grande région de Montréal.
Aïe, aïe.
Oui.
Aïe, aïe, c'est long. Et donc ça, ça a des conséquences sur le rétablissement, je présume.
Oui. Les études montrent que c'est associé aussi avec plein de mauvaises évolutions, des effets secondaires, la surcharge de travail pour le personnel en place qui doit gérer une capacité plus grande que normale et toutes sortes d'autres délais, même sur la population, sur les gens qui sont dans la salle d'attente, parce qu'on se concentre plus sur les gens sur civière et pour les patients qui ont des fois des besoins critiques qu'on des fois néglige, pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on est juste débordé.
Bien oui, parce que c'est pas fait pour ça. Donc, malgré tout, il y a certains services qui s'en sortent mieux que d'autres. L'hôpital du Sacré-Cœur, où vous êtes la moyenne, bon, c'est long, mais c'est quand même moins qu'ailleurs. Oui. C'est 22h33. À d'autres endroits, bon, bref, il y a des hôpitaux où c'est moins pire.
Oui.
Est-ce qu'ils font les choses différemment?
Bien, on note souvent là, des exemples qu'on cite, l'hôpital juif, de Montréal, malgré beaucoup de visites, l'hôpital de la Cité de la Santé, où ils se sont organisés pour travailler plus en équipe avec tout leur réseau, avec leur première ligne, avec leurs hospitalistes, pour dire, regarde, on essaie d'augmenter le roulement, d'identifier les goulots d'étranglement puis d'essayer d'être plus efficace avec les ressources qu'on a sur place. Mm-hmm. Malheureusement, on ne peut pas attendre de dépendre de la bonne volonté de chaque hôpital. Il faut qu'il y ait des directives qui viennent d'en haut. Ça commence à se discuter, mais il faut que chaque hôpital fasse ce travail-là pour qu'on puisse s'améliorer.
Et le ministère de la Santé, est-ce qu'il peut faire quelque chose, lui, d'en haut?
Bien, il a déjà reconnu que c'est mauvais pour un patient de rester plus que 24 heures sur une civière à l'urgence. Ils ont déjà mis en place, énoncé des incitatifs pour dire à chaque hôpital, on va vous un peu récompenser si vous essayez de faire ce travail-là. Mais il faut faire un suivi, puis il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables si ça ne fonctionne pas ou si ce n'est pas fait.
Effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Les combats se poursuivent pour une 62e journée en Ukraine. Et sur le plan diplomatique, le président russe a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU. Sabrina Rivet va nous expliquer tout ça au retour. Faisons le point sur la guerre en Ukraine alors que vient de s'amorcer le troisième mois du conflit. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a rencontré aujourd'hui à Moscou le grand responsable de cette guerre, le président russe Vladimir Poutine. Sabrina Rivet se joint à nous. Sabrina, bonsoir.
Bonsoir, Noémie.
Vladimir Poutine s'est exprimé sur la chance que réussissent les pourparlers avec l'Ukraine.
Ouais, c'est-à-dire donc ce qu'il a dit Vladimir Poutine au secrétaire général de l'ONU, c'est qu'il croit que les discussions avec l'Ukraine pourraient avoir une issue positive. Alors, le président de la Russie a aussi affirmé que les négociations de paix qui se sont tenues à Istanbul au cours des dernières semaines avaient permis des avancées, évidemment, c'est selon lui. Alors, pour cette première visite à Moscou depuis le début de la guerre d'Antonio Guterres, bien, le secrétaire général de l'ONU a aussi demandé un cessez-le-feu de la Russie en Ukraine et qu'il y ait aussi des corridors humanitaires dans les endroits bombardés. Est-ce qu'il ressort également de cette rencontre entre Antonio Guterres et Vladimir Poutine que vous voyez à l'écran? Ce sont des discussions concernant Mariupol. Alors, Vladimir Poutine aurait donné son accord de principe pour que les Nations unies et le Comité international de la Croix-Rouge procèdent à l'évacuation de personnes piégées à l'usine Azovstal à Mariupol. Il y a d'autres discussions qui vont avoir lieu pour organiser cette aide.
Et Sabrina, le premier ministre Justin Trudeau, aujourd'hui, s'est entretenu avec la présidente de la Moldavie.
Oui, des discussions entourant la paix et la sécurité dans ce pays, vous voyez là, qui est tout juste aux limites de l'Ukraine, parce qu'il y a eu une série de bombardements, en fait, d'explosions dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, voilà, en Moldavie, appuyé par la Russie, ce qui fait donc penser qu'il pourrait y avoir un débordement de la guerre en Ukraine. Et la présidente de la Moldavie a d'ailleurs fait un appel au calme.
E o situație complexă și tensionată. Noi suntem vigilenți, vom lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unor escaladări, pentru întărirea securității statului și protejarea cetățenilor noștri. Trebuie să fim calmi, să ne informăm din surse sigure și să evităm distribuirea informațiilor false. Solicităm instituțiilor media, formatorilor de opinie, liderilor sociali și politici să se comporte în această perioadă cu maximă responsabilitate.
En terminant, selon Washington, le Canada qui devrait envoyer 8 camions blindés en Ukraine.
Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Deux responsables du All England Club ont défendu leur décision d'interdire aux joueurs de Russie et du Bélarus de participer au tournoi de Wimbledon. Ils ont parlé d'un choix extrêmement dur et déchirant. Parmi les joueurs touchés par l'interdiction, on retrouve le champion en titre des internationaux des États-Unis, Daniil Medvedev, et la Bélarusse, Victoria Azarenka, qui a remporté deux fois les internationaux d'Australie. Le prince Charles et son épouse Camilla feront une visite en sol canadien du 17 au 19 mai prochain. Ils se rendront à Terre-Neuve-et-Labrador, à Ottawa et dans les territoires du Nord-Ouest. La visite se terminera à Yellowknife par une célébration en l'honneur du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, le 70e anniversaire de son accession au trône. Il s'agira de la 19e visite au Canada du prince de Galles. Le passage de Twitter aux mains du milliardaire sud-africain Elon Musk continue de soulever bien des interrogations. Le patron de Tesla et de SpaceX a acheté hier la plateforme pour la coquette somme
de 44 milliards de dollars américains, puis il a promis d'y faire régner la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans sa bouche? On en discute avec notre collaborateur Yves Boisvert. Bonsoir, Yves.
Bonsoir, Noémie.
Donc, on va se demander s'il faut ou non s'inquiéter de cette transaction, mais d'abord, rappelons quelle utilisation Elon Musk a faite lui-même de Twitter par moment.
Bien, absolument. Alors, si on remonte son fil Twitter, on va voir plusieurs énormités, Noémie. Il a traité... D'abord, il a dit qu'on allait beaucoup trop loin dans les mesures sanitaires. Il a traité Justin Trudeau, il l'a comparé à Hitler à cause des mesures pour libérer Ottawa de la manifestation de camionneurs qu'il y avait ce printemps, cet hiver. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Il tolère aussi, assez mal aussi la critique. Il a poursuivi quelqu'un en diffamation parce que... Il a traité quelqu'un de pédophile aussi, un spéléologue qui contestait ce qu'il avait dit dans le cas... Il y avait des enfants qui étaient dans
Ah oui, la grotte en Thaïlande, il voulait aller les secourir. Puis le spéléologue a dit « ça ne marchera pas ». Il l'a traité de pédophile sur Twitter.
Exactement. Bon. Voilà. Alors, donc, c'est déjà quelqu'un qui est... selon les standards ordinaires, ce qu'on appelle un troll, c'est-à-dire quelqu'un qui attaque à gauche, à droite sur Twitter. Puis, c'est une des choses qu'on déplore sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui devrait être un endroit de discussion à peu près raisonnable. Et donc, qui fait des attaques de ce genre-là. Et lui dit, ben là, la modération a bien moins bon goût.
Oui, c'est ça.
Et il devrait y avoir moins de modération, plus de liberté.
Plus de liberté. Puis il y a des gens qui regardent ça et qui disent, bon, Elon Musk, c'est un milliardaire dans la cinquantaine. Mm-hmm. Il fait une crise là, de comment on appelle ça en français? En fait,
un power trip,
une crisette, puis il s'achète un gros joujou.
Oui.
Mais ce qu'il s'achète, c'est un outil influent, là.
C'est qu'on ne peut pas vraiment... Il y a toujours eu, de tout temps, les grands capitalistes ont voulu avoir des journaux puis favoriser des idées, ainsi de suite.
Ben oui.
Il y a une grande différence entre Bezos, qui a le Washington Post, qui a des standards journalistiques, qui a une tradition et qui n'a pas un rayonnement international comme un réseau social. Il y a 400 millions d'abonnés, d'utilisateurs de Twitter. C'est pas le plus important au monde, mais ça veut dire que ça a une répercussion internationale.
Mm-hmm.
Et les réseaux sociaux peuvent avoir des effets bénéfiques, bien sûr. Ça peut aider à contester des gouvernements autoritaires et ainsi de suite. Mais ça a aussi eu des effets. Parfois, ça crée des massacres par la propagation de fausses nouvelles,
ouais,
de théories du complot. Il y a des cas documentés de ça,
mm-hmm,
des trucs qui sont partis sur Facebook ou ailleurs et qui ont entraîné des morts.
Ouais.
Alors donc, la modération, c'est simplement de dire pas n'importe quoi qui peut aller là-dessus.
On peut pas dire n'importe quoi.
Il y a une heure, Noémie, il a tweeté justement, écoutez, là, arrêtez de vous énerver. Quand je parle de liberté d'expression, je parle simplement de ce qui est permis par la loi. Et donc, bon, alors, on verra. D'ailleurs, c'est pas tout à fait réglé. Mais donc, c'est pour ça que c'est inquiétant, Noémie.
On peut se demander...
Qu'est-ce qu'il veut en faire?
Oui, pourquoi il s'achète ça à 44 milliards de dollars?
Mais t'as parlé d'égo, Alors, écoute, mais c'est pour passer ses idées, bien sûr, ou pour empêcher qu'on pense les idées qu'il aime. Mais il y a une chose intéressante, par contre, c'est qu'il veut mettre fin à l'anonymat et authentifier chaque compte.
Ah!
Alors, là-dessus, ben là, si t'es authentifié, t'es responsable de ce
Alors,
que tu dis.
Alors, peut-être qu'indirectement, ça luttera contre
peut-être.
Le contenu toxique.
Ça a des effets sur les sources, par contre.
Merci, Yves. Vous parlez plutôt des délais monstres pour obtenir un passeport. Bien, les gens qui attendent des prestations d'assurance emploi sont dans la même situation. Certains font face à des délais de 4 à 6 mois pour obtenir leur premier chèque, ce qui aggrave leur endettement et leurs angoisses financières. J'en parle avec Anaïs El-Boujdani. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir, Noémie.
Donc, tu as rencontré un organisme qui milite pour défendre les chômeurs. Puis, cet organisme-là demande qu'on forme plus d'agents chez Service Canada.
Exactement, parce que Service Canada nous a dit qu'ils ont vu une augmentation de 25 % des demandes d'assurance chômage par rapport à avant la pandémie.
Hmm.
On peut donc imaginer là, que ça crée un engorgement immense. Mais les délais, là, ça fait longtemps que ça existe. Et c'est un problème, entre autres, selon cet organisme, parce qu'il manque d'agents, mais qui sont aussi peu formés. Et C'est un programme compliqué. C'est une loi fédérale avec beaucoup de nuances. Et ces agents doivent aussi gérer des cas complexes, parfois avec des gens qui sont en détresse financière. Vous allez le voir dans la capsule. Il y a une stagiaire du mouvement Action Chômage que j'ai rencontrée qui m'a même dit qu'une agente avait mentionné à un client d'emprunter de l'argent à sa propre mère parce que les délais étaient trop longs. Donc, on peut peut-être se dire qu'il y a un manque de formation à ce niveau-là. Service Canada a embauché 750 nouveaux agents depuis janvier. C'est trop tôt pour dire si ça va changer les choses, mais on va voir là, sur le terrain ce que ça donne.
On regarde ton reportage.
Merci.
Certaines personnes, là, on a jusqu'à 5 mois. J'ai même vu une personne jusqu'à 6 mois qui attendait des prestations d'assurance chômage.
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'au moment où on a le taux de chômage le plus bas historiquement, là, depuis les années 70, comment on peut expliquer ces délais-là?
Bien, il y a deux choses. Il y a la fraude chez Desjardins qui explique à peu près 10 000 cas de délais de traitement. Les autres, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de courtes périodes d'assurance chômage à cause de la COVID. C'est vraiment ça. Dans l'année en cours, c'est 3 millions de personnes qui ont fait des demandes d'assurance chômage. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont rester longtemps sur des prestations d'assurance chômage, mais c'est tous des gens qui ont fait des demandes.
Service Canada, qui gère l'assurance-emploi, nous confirme que 14 % des cas ne sont pas gérés dans les délais de 28 jours. C'est le cas de Francis Ducharme, qui a eu toute une mésaventure pour obtenir ses prestations, 4 mois au total. Il nous parle hors caméra parce que c'est un sujet encore sensible pour lui.
J'étais furieux, j'en pouvais plus d'attente. Je trouvais que que c'était violent, très violent contre moi, contre nous, les chômeurs.
Suivez-moi bien. Donc, le 17 décembre, Francis fait une première demande de prestation. Le 7 février, il apprend qu'il est victime d'un vol d'identité, mais ça, c'est seulement après avoir fait plusieurs appels téléphoniques. Le 7 mars, un mois plus tard, on lui dit que le délai de 28 jours va être dépassé. Le 17 mars, on lui dit qu'il y aura d'autres délais. Le 24 mars, son dossier est classé urgent. Mais c'est seulement avec l'intervention du mouvement Action Chômage, le 30 mars, qu'il y a une mise à jour dans son dossier. Le 8 avril, il doit subir une enquête approfondie pour prouver qu'il est bel et bien en recherche d'emploi.
C'est seulement le 13 avril que j'ai reçu les 11 semaines de prestations qui m'étaient dues. Il devrait, en fait, y avoir une grande générosité de l'assurance-emploi parce qu'il y a une priorisation du travail, puis c'est pas notre faute, c'est une priorisation du travail.
Et ils peuvent pas demander souvent d'aide sociale, donc ils se retrouvent vraiment sans revenus, des cartes de crédit complètement loadées. Puis certains se sont fait évincer de leur logement, là, carrément.
Monsieur, dans le fond, il a fait sa demande le 16 janvier.
Mais ça commence à faire longtemps, quand même.
C'est ça, exactement.
Des fois, nous, on a une ligne spéciale, on appelle, puis on dit, bien là, ça fait 2 mois que monsieur ou madame n'a pas ses prestations d'assurance chômage. Est-ce qu'il y a au moins une agente ou un agent qui a le dossier sur son bureau? Puis souvent, ça dit, ah non, il y a même personne qui est en train de regarder le dossier.
C'est pas indiscret, mais comment est-ce que vous faites pour vivre pendant ces mois-là?
Honnêtement, j'ai eu la chance et la prévoyance puis la capacité d'avoir des économies suffisantes. Oui, mais ça a passé très, très proche que j'ai besoin de m'endetter. Ce qui est fâchant, c'est que moi, j'ai touché la PCU en 2020. Donc, je sais que c'est possible qu'il y ait une volonté politique de rendre les choses extrêmement simples.
Le procès de l'auteur de l'attaque mortelle dans le Vieux-Québec est une nouvelle fois suspendu en raison de la COVID-19. Un nouveau membre du jury a testé positif au virus. Son isolement doit se terminer demain. Le procès devrait donc reprendre à ce moment. Le commissaire à l'environnement du Canada remet en question l'approche du gouvernement Trudeau pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays. Dans 5 rapports dévoilés aujourd'hui, il juge que le gouvernement pêche par excès d'optimisme sans mettre en branle les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Notre collaboratrice Claudel Pétrin-Desrosiers est avec nous. Bonsoir, Claudel.
Salut, Noémie.
Alors, tu as pris connaissance de ces 5 rapports. Pour ceux qui ne connaissent pas le commissaire à l'environnement, qu'est-ce que c'est?
C'est associé au bureau du vérificateur général du pays. Donc, c'est un petit peu le travail de faire objet de conscience du gouvernement, dire est-ce qu'on est là où ce qu'on voudrait être? Est-ce qu'on a les bonnes politiques, les bonnes mesures? Puis en fait, ce qu'on nous offre aujourd'hui, c'est 5 rapports qui font un petit peu un effet de bulletin de mi-session et qui donnent un coup de réalité au gouvernement en disant, bien, Vous avez dit des choses, voici où ce qu'on en est, puis voici peut-être ce qui doit changer si on veut atteindre les objectifs.
Bon, alors, il parle de quoi exactement dans les 5 rapports? Parce qu'il a tendance à se pencher sur certains sujets en particulier.
Il y a 5 thématiques dans les rapports qui ont été dévoilées aujourd'hui. Une qui porte sur l'hydrogène, une sur la tarification carbone. On parle de transition juste, notamment des mesures qui sont là pour soutenir les travailleurs. On parle de l'objectif en soi du gouvernement de réduire son empreinte carbone. Puis on parle un peu globalement là, de l'atteinte de nos émissions de gaz à effet de serre. Puis dans les 5 rapports, on donne des signaux de faire attention parce que, encore une fois, il y a un décalage entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, les politiques qu'on met en place et les objectifs qu'on s'est fixés.
Notamment en ce qui concerne la tarification du carbone.
Exact. En fait, le rapport souligne là, que le pays s'est doté d'une tarification carbone un petit peu à l'échelle du pays. Par contre, il met quelques réserves, notamment sur le fait qu'il y a très peu de mesures pour assurer une question de normes entre les provinces puis s'assurer que finalement les comptes sont rendus. On parle aussi qu'on laisse encore la place à certaines industries qui profitent de cette tarification-là, qui n'est pas nécessairement aussi élevée qu'elle devrait être, pour continuer de polluer sans payer le juste prix et que ça a des effets un peu finalement disproportionnés, désavantageux pour certaines communautés, dont les communautés autochtones et les PME.
Parce que ça leur coûte pas assez cher d'émettre du carbone, donc ils préfèrent en émettre.
Oui, il y a certaines lacunes dans les lois qui permettent aux grosses industries qui polluent le plus de polluer à très faible coût.
À très faible coût, ce qui les encourage pas à cesser de le faire.
Exact.
Par rapport à l'utilisation de l'hydrogène...
Oui, ça a été une belle question, ça.
Oui, c'est ça. Est-ce que le rapport fait état d'hypothèses irréalistes? Le fédéral compte trop sur l'hydrogène pour atteindre ses cibles de réduction de carbone.
Mais là, on dit au gouvernement, calmez-vous un petit peu. Là, c'est pas vrai que l'hydrogène va tout sauver. Dans les estimations qui ont été faites récemment, dans les modélisations pour atteindre nos cibles de réduction, on estimait que l'hydrogène allait jouer une part d'à peu près 15 %. Mais ce faisant, c'est comme si le gouvernement avait un petit peu éliminé les études qui ne faisaient pas trop son affaire puis qui disaient que finalement, l'hydrogène allait peut-être jouer un rôle vraiment moindre, de l'ordre de peut-être 0,5 % d'ici 2030 et 5,5 % d'ici 2040. On est très loin du 15 % envisagé. Et là, ça dit, bien, vous devriez retourner à la table de dessin, revoir vos modélisations, puis peut-être agencer vos plans pour que ça concorde avec l'ensemble des données qui existent, puis pas juste prendre celles qui vous avantagent.
L'idée de la transition juste, ça, c'est intéressant. C'est de tenir compte des travailleurs qui vont perdre leur emploi lorsqu'on va se détourner des...
C'est une question cruciale. Puis
des énergies fossiles.
Oui, puis ce qui nous rappelle, avec justesse, je pense que ça a été une revendication qui a été portée par beaucoup et qui continue de l'être, incluant des groupes syndicaux, des groupes environnementaux. Mais on a à peu près 170 000 travailleurs au pays qui dépendent en ce moment de l'industrie. C'est à considérer. Et dont 3 400 de l'industrie du charbon qui va être appelée rapidement à sortir du gaz. Et en ce moment, malheureusement, il n'y a pas encore assez de plans clairs pour les soutenir au niveau financier, des programmes de retransformation professionnelle. Et ça, bien, je pense que c'est une mesure sur laquelle le gouvernement doit miser d'urgence.
Bien, s'il veut générer des appuis pour ses politiques, ça va être important.
Donc, retour à la table de dessin.
C'est le message qu'on retient. Merci beaucoup, Claudelle.
Ça me fait plaisir. Bien.
Votre prochain changement de pneu risque de vous coûter beaucoup plus cher. On vous explique pourquoi au retour. Si vous comptez faire changer vos pneus prochainement, vous pourriez être surpris du montant de la facture. Le prix des pneus a énormément grimpé dernièrement et c'est sans compter les longs délais avant de pouvoir obtenir un rendez-vous chez un garagiste. Alexandra Paré nous donne les détails.
La pénurie de main-d'œuvre et les longs délais d'approvisionnement occasionnent des retards pour faire son changement de pneus. On ajoute à ça le prix des pneus qui a complètement explosé parce que l'offre est beaucoup plus petite que la demande. Voici la réalité d'un détaillant cherbourquois.
Les pneus sont très, très chers cette année. Bien, c'est sûr qu'on a des grosses augmentations dues aux charges que les ports, les containers arrivent.
Comment ça vous coûte de plus cette année?
Bien, un container, il y a 2-3 ans, ça nous coûtait environ 4 300 à 4 500 du container. Aujourd'hui, ça nous coûte dans les alentours de 20 21 000 US. Tout ce qui vient de l'Asie. Toutes les compagnies majeures, que ce soit Bridgestone, Pirelli...
C'est sûr aussi que le phénomène de l'invasion de l'Ukraine par la Russie vient troubler la,
y a encore joué dans là-dedans. Donc, parce qu'il y a plusieurs constructeurs ou fabricants de pneus qui ont des usines en Russie également, qui font affaire avec des sous-traitants en Russie. Et soit ils ont carrément dû stopper la production ou la déplacer. Encore une fois, ça cause des retards et ça fait augmenter les prix.
Un prix moyen de pneus, là, mettons qu'un pneu il était à 110 $, bien, il va être rendu en entour de 140-150. Les années précédentes, là, on plaçait nos commandes toujours environ 3 mois d'avance. Aujourd'hui, il faut commander minimum 6 mois d'avance pour s'assurer d'avoir nos pneus. Puis encore là, ils ont beaucoup de back-order parce qu'eux autres aussi, les manufactures, on a un manque d'employés, de personnel.
Vous m'avez l'air d'un homme d'expérience.
Oui, ça fait quelques années. Ça fait 40 ans.
Avez-vous déjà vu ça?
Des grosses augmentations rapides comme ça, là, sur le coup, là, on n'a jamais vu ça, non. Jamais. Ça variait, habituellement, ça variait toujours 2, 3, 4 % d'augmentation, mais là, c'est 30. Au-dessus de 30 %, c'est majeur. Hein.
J'ai entendu parler de ça, là, que les pneus ont vraiment augmenté beaucoup. Fait que
j'ai des nœuds de l'année passée, fait que je suis correct.
Si pour économiser, vous pensez à rouler sur vos pneus d'hiver pour la période estivale, ben c'est peut-être pas une bonne idée.
Il y a deux raisons pour lesquelles on déconseille chez CA Québec de conserver les pneus d'hiver. La première, c'est la sécurité. Les pneus d'hiver sont conçus avec une gomme très molle, une gomme qui est là pour vraiment adhérer à des surfaces glissantes. Alors, sur l'asphalte, la tenue de route est touchée. Donc, on le sentira peut-être pas en conduite normale, mais en manœuvre d'urgence, on pourrait avoir beaucoup moins de précision.
On comprend que la prudence a un prix.
La prudence a un prix, mais en même temps, on va récupérer en bout de ligne parce qu'on n'aura pas usé de façon inégale ou prématurément les pneus d'hiver.
C'est le moment de l'année où CAA Québec prépare son palmarès des pires routes du Québec. Les automobilistes ont jusqu'au 26 mai pour signaler les pires voies à emprunter. L'an dernier, c'est le chemin de la Grande Ligne à Carignan, en Montérégie, qui a été élu la pire route du Québec. Les bateaux de croisière sont enfin de retour au Québec après 2 ans d'interruption. Hier, un navire norvégien, le Viking Octantis, était accosté à Saguenay. Aujourd'hui, il était à Québec. Plus de 100 000 passagers sont attendus dans la capitale nationale d'ici le 1er novembre. Voici Thomas Bourgault.
Beautiful trip. Beautiful places to we are to know.
Le bateau de croisière Viking Octantis que vous voyez derrière moi est le premier à arriver officiellement au port de Québec et marque le début de la saison 2022 qui devrait terminer en novembre. On attend plus de 100 000 touristes pour une centaine d'escales.
C'est une journée de célébration après 2 ans qui était évidemment assez dure. Donc pour nous, c'est vraiment une industrie très importante pour nous comme destination. Et aussi de voir l'intérêt des touristes à travers le monde. Hein. Donc, nous, on voit la demande par les recherches avec Google, etc. Et la demande de venir à Québec spécifiquement, des Américains, des gens de l'Europe, ça dépasse franchement nos attentes.
My wife Anne and I have actually been to Quebec once before on a cruise ship, and we enjoyed very much walking around the old town and up to the hotel, the Frontenac. And we just very glad to be here again.
Parfois, quand on dit croisière, on pense aux Bermudes ou on pense aux Bahamas. Bien, à quel point le tourisme, les croisières sont vitales à Québec? Puis pourquoi les gens veulent venir ici faire une croisière?
Mais la beauté de la ville, hein? Évidemment, les gens ils voient les visuels, hein? les annonces de Québec. Donc, et Québec, pour des années, avant la pandémie, était numéro un au niveau de taux de satisfaction par les clients.
You like the weather?
Today's better. Yesterday was very nasty.
On attend plus de 100 000 touristes, une centaine d'escales, de bateaux. Comparé aux années avant la pandémie, à quel point vous êtes satisfait de ces chiffres-ci pour 2022?
On est honnêtement très heureux. Hein? Puis on avait estimé avant le printemps, d'arriver à 50 % du volume. Mais franchement, on s'aligne pour vraiment dépasser nos attentes cet été.
Bonsoir,
Michel.
Bonsoir, rebonsoir.
Un anneau de 30 mètres de diamètre va bientôt apparaître au centre-ville de Montréal.
Pas mal gros, hein, quand même. Ben... Et c'est une œuvre artistique en acier. Mais on a des images, regarde.
Wow.
En acier inoxydable qui sera suspendu et illuminé à l'entrée principale de l'esplanade de la place Ville-Marie. L'anneau pèse, attention, 23 tonnes ou plus de 50 000 livres, si vous êtes en livres. Le projet sera dévoilé en juin. L'installation a été conçue par la firme d'architecte Claude Cormier et Associés. Hein. C'est lui qui est derrière les fameuses boules roses et colorées là, qui ont longtemps été au-dessus de la rue Sainte-Catherine dans le village ici à Montréal. Alors, ça s'en vient, ça, bientôt en juin du côté de Montréal.
J'ai hâte de voir ça, c'est magnifique. Et le gardien Carey Price s'en va à New York.
Oui.
Il accompagne son équipe, mais pas pour jouer devant le filet.
Non, il ne sera pas sur la glace pour affronter les Rangers demain soir. En fait, il va à New York pour rencontrer un médecin, le médecin qui l'a opéré au genou l'été dernier. Alors, j'imagine qu'il va évaluer pour voir si la guérison va dans le bon sens, son état de santé qui sera réévalué de manière comme ça quotidienne.
Et à 22h ce soir?
Ce soir, on va revenir sur le retour des députés à l'Assemblée nationale avec Luc Ferrandez et sur le temps d'attente sur civière avec le docteur Alain Boncaire.
Un temps énorme. Merci, Michel.
Bye-bye.
Merci d'avoir été avec nous. À demain, 17h.